deuxième partie de la cantate tout de suite. Dans l'actualité des idées ce midi et à la une de la grande table, deuxième partie, un prix Nobel de littérature et on connaîtra le nom du lauréat d'ici quelques minutes. En attendant, Oslo et au-delà, on vous en reparle. La littérature peut-elle prédire l'avenir? Invité de la deuxième partie de la grande table, Pierre Bayard, passionné par la chose littéraire, penseur original et déboulonneur de mythes, il nous avait réjouis et un peu déculpabilisé, il faut bien le dire, avec comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Il revient avec le Titanic fera naufrage aux éditions de Minuit. L'anticipation, un genre littéraire, après Demain est écrit et le plagiat par anticipation, il continue son exploration littéraire des temps à venir, moins sous la forme d'un dialogue entre les œuvres elles-mêmes. Ici, l'échange se fait plutôt entre la réalité et la fiction. Naufrage du Titanic, séisme en Haïti par le poète Franck Etienne, les totalitarismes que préfigure l'œuvre de Kafka. Comment expliquer que des écrivains aient pu ainsi prévenir l'avenir? Comment ce qui apparaît aujourd'hui comme irrationnel peut trouver demain un débouché dans la réalité, voire une explication scientifique? Les politiques auraient-ils intérêt à recommencer à lire des livres pour sortir d'une vision court-termiste du monde? Réponse en partie dans cet ouvrage, un ouvrage didactique avec ses cas pratiques, un essai étonnant sur les possibles et les limites de l'imaginaire. Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez commencer par une prévision, une prémonition pour le Nobel?
Je préfère ne pas trop m'avancer. Il faudrait un texte. Hein. Je ne lis pas dans les boules de cristal, je lis dans les textes littéraires. Hein. Bon. Donc c'est à partir des textes littéraires que ce livre tente de formuler des anticipations.
Est-ce que vous auriez une préférence alors?
Écoutez, j'ai des
parmi
liens...
Parmi les quelques favoris qui sont cités, le Syrien,
j'ai des liens
Adonis,
de famille avec,
le Norvégien,
avec le Japon.
John Foss.
Et j'aime beaucoup l'œuvre de Murakami Haruki. Comme on en parle beaucoup à chaque année, peut-être que c'est la bonne pour lui.
Adonis aussi.
Bon, plusieurs noms. Hein. On n'a pas encore pour l'instant la réponse, mais on note que votre préférence.
Dans une minute, en principe.
Éventuellement au japonais Murakami. À mes côtés, pour vous interroger, Antoine Mercier, vous n'avez pas lu le livre de notre invité, j'espère. C'est justement pour ça que vous allez peut-être pouvoir nous en parler.
Pourquoi vous dites ça?
Pour faire référence au titre d'un des précédents ouvrages de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Commençons avec vous à poser un peu les bases de cette exploration littéraire que vous avez menée, Pierre Bayard, dans cet ouvrage. Les vertus de la littérature, selon vous, ce serait peut-être qu'elle peut justement penser l'impensable.
Alors cette idée que la littérature pourrait anticiper sur l'avenir est une vieille idée, on la rencontre à droite et à gauche. Sauf erreur, il n'y a jamais eu d'ouvrage de synthèse. C'est-à-dire, vous avez des ouvrages sur les anticipations de Kafka, sur les anticipations scientifiques de Jules Verne, qui sont bien connus, mais je n'en ai pas rencontré qui tentent de faire un bilan un peu plus général. Et donc j'ai proposé de prendre un angle particulier qui est celui de l'anticipation des catastrophes par la littérature ou plus généralement par l'art. Catastrophes politiques avec le totalitarisme, catastrophes naturelles, guerres, etc. Et de tenter de raisonner sur ces cas de façon un peu minutieuse.
Et alors il va falloir qu'on vous interrompe, on fera pas ça tout au long de l'émission, rassurez-vous, parce que à Oslo, on va pouvoir écouter la conférence de presse et l'annonce du lauréat.
Hjärtligt välkomna till Svenska Akademin. Akademin har just haft sammankomst och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
Voilà l'annonce du prix Nobel de littérature en direct et ce serait Bob. Et c'est Bob Dylan.
L'écrivain ou...
L'écrivain.
J'attends deux secondes de savoir si c'est un canular ou pas.
Mais... pourquoi ce serait un canular? Ça fait un moment qu'il était pressenti, Bob Dylan, Pierre Bayard.
Littérature, år 2016, tilldelas Bob Dylan, som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.
Et voilà, pour ceux qui ne nous croiraient pas, ça a été répété deux fois, certes en suédois, mais je crois que le nom de Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016, tel que le vient de l'annoncer l'Académie suédoise, est plus que confirmé. On a donc maintenant le résultat, le nom du lauréat, l'Académie suédoise qui consacre chaque année un écrivain pour service rendu à l'humanité et surtout pour une œuvre littéraire. Il va falloir aller chercher, explorer dans les textes, des musiques, des chansons de Bob Dylan pour comprendre où se trouve cette humanité. Ceux qui le connaissent bien n'auront peut-être pas de mal à répondre à cette question. On connaît donc maintenant le nom du lauréat. Rappelons que le prix Nobel de littérature avait été attribué l'an passé à la Biélorusse Svetlana Alexievitch, qu'elle faisait partie des favorites, que son œuvre était à mi-chemin entre le journalisme et l'histoire. Ça fait quand même 115 ans que le jury a consacré des grands noms de la littérature. C'est une première qu'un musicien, un auteur, soit lauréat comme cela d'un prix Nobel de littérature. Près de chez nous, il y avait eu Albert Camus, Patrick Modiano ou encore Jean-Paul Sartre qui avaient refusé ce Nobel, et puis plein de grands noms étrangers, de l'allemand Günther Grass aux américains Toni Morrison, John Steinbeck, William Faulkner, Ernest Hemingway, des colombiens comme Gabriel Garcia Marquez, l'espagnol péruvien Mario Vargas Llosa, le chilien Pablo Neruda, le turc Orhan Pamuk ou encore la britannique Doris Lessing, l'Irlandais Samuel Beckett et le dramaturge italien Dario Fo, décédé ce matin, l'auteur du Mystère Bouffe et de la mort accidentelle d'un anarchiste.
Pas de chanteur apparemment.
Pas de chanteur, non. Visiblement, c'est vraiment une première. Pierre Bayard, une réaction au-delà de la stupéfaction?
Ça indique une extension vers d'autres genres et ça pose la question de savoir si la littérature est seulement dans les œuvres classiques, romans, théâtre, poésie, et si elle n'est pas aussi dans la chanson. Donc on a connu une extension vers des pays qui ne sont pas les pays des grands écrivains, vers les femmes, beaucoup moins représentées parmi les Nobel que les hommes. Maintenant, semble-t-il, une extension générique, c'est tout à fait intéressant. C'est vrai qu'il y a de la littérature ailleurs que dans les œuvres qu'on considère en général comme littéraires.
Donc les poètes sont partout. La chanson peut prédire l'avenir aussi, peut-être.
Écoutez, je vais me lancer dans une œuvre, dans une exploration très minutieuse de l'œuvre de Dylan pour voir ce que l'avenir nous annonce, nous promet ou nous menace.
Bob Dylan, chanteur américain, héros de la contre-culture. On va revenir sur ce prix Nobel de littérature d'ici la fin de l'émission. Et on va en venir pour l'instant à votre essai. Le Titanic fera naufrage, Pierre Bayard, Nobel. À l'instant, Antoine Mercier l'évoquait, une œuvre au service de l'humanité. Aucun écrivain n'écrit avec la conscience d'une telle portée. Hein, Bob Dylan, pas plus, j'imagine. Et Pierre Bayard, les prémonitions littéraires, vous le dites, n'engage pas les écrivains à avoir une pleine conscience de la portée émancipatrice de ce qu'ils écrivent ou une volonté d'avertir les générations suivantes pour que celles-ci y trouvent une légitimité. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher pour comprendre l'anticipation et ses valeurs. Vous interrogez plutôt que la psyché de l'écrivain, le dispositif mis en œuvre, et c'est celui de l'écriture.
Alors je crois qu'il faut distinguer les cas, d'où l'intérêt qu'il y avait pour moi à en prendre une quinzaine, assez significatif et parfois assez mystérieux, une quinzaine de catastrophes qui ont été annoncées de manière assez précise par des écrivains et des artistes. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs cas de figure. Vous avez des cas où il y a des formes de prédictions raisonnées qui viennent du travail de l'écrivain. Quand Jules Verne annonce un certain nombre de découvertes modernes, c'est à la suite d'un travail de réflexion. Et puis vous avez d'autres cas plus étranges où il n'y a pas de prédiction, mais une véritable prémonition, comme si l'écrivain ou l'artiste avait perçu des signaux venant de l'avenir. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre tous les cas.
C'est-à-dire, donnez aussi un exemple peut-être pour ce deuxième cas. Le cas de la prémonition.
Dans les cas de prémonition, on peut penser à Franck Étienne, par exemple, qui 2 mois avant le tremblement de terre d'Haïti construit une pièce où 2 personnages sont ensevelis après un séisme. Et lui-même en parle comme d'une prémonition. La plupart des auteurs que je cite là ont eux-mêmes admis ou proposé l'idée qu'ils avaient été victimes d'un phénomène d'anticipation.
Ils l'ont admis après l'événement.
Oui, évidemment.
Quand ils ont pu le connaître, voilà. quand ils ont pu le connaître,
parce que certains se sont exprimés après leur mort. Hein. L'un des exemples les plus frappants, qui est celui de l'écrivain anglais William Stead, qui raconte le Titanic avec dans deux nouvelles, qui est parapsychologue et à qui un certain nombre de personnes prédisent qu'il ne faut pas qu'il monte sur un bateau. Et qu'il fuit les traversées, monte sur le Titanic, en quelque sorte pour vérifier. Il meurt, mais ensuite communiquera avec ses descendants pour raconter ce qui s'est passé. Donc il faut aussi envisager ce cas de figure d'une communication après coup et après la mort.
Et justement, ça c'est intéressant, Pierre Bayard, sur cet exemple du Titanic, qui donne d'ailleurs à votre essai son titre, « Le Titanic fera naufrage ». Si l'époque avait pris au sérieux Morgan Robertson et son livre « Futility », publié 15 ans avant les faits, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le naufrage du Titanic aurait pu être évité ?
Oui, absolument, puisqu'il est quand même très précis, Morgan Robertson. Il écrit son livre en 98, le Titanic fera naufrage en 1912, donc 14 années d'écart, et il raconte de façon très précise, comme s'il avait les coupures de presse sous les yeux, le naufrage du Titanic. Le nom des deux navires, le navire de fiction et le navire réel, sont très proches, Titan, Titanic. Tout dans les bateaux les rapproche, hein, que ce soit le tonnage, la longueur, le nombre de cheminées, le nombre d'orchestres, la présence de cloisons étanches, hein, qui était une particularité du Titanic, le manque de canots de sauvetage, et puis les circonstances du naufrage sont extrêmement proches, puisque c'est le même mois, en avril, au même endroit que les deux bateaux font naufrage. Donc, sans aucun doute, si les concepteurs du bateau avaient prêté attention à ce que Morgan Robertson ait écrit, le Titanic n'aurait pas fait naufrage.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous récusez en partie l'idée de coïncidence, telle qu'un sociologue comme Gérald Bronner a pu la formaliser dans Coïncidence, nos représentations du hasard, c'est l'effet râteau, hein, comme vous le nommez, et vous faites évidemment sur ce développement-là un long clin d'œil à Welbeck et à ses textes plateforme avec les attentats qu'il avait annoncés, entre guillemets, alors j'ose plus dire, comme vous avez bien fait la distinction entre prémonition et prédiction, là on aurait affaire à une prédiction.
Je pense qu'il y a un peu les deux dans le cas de Welbeck, comme dans le cas d'une autre annonce d'attentat, qui est Tom Clancy, hein, l'auteur de best-seller américain, qui raconte comment un terroriste jette un Boeing sur le Capitole. Il y a les deux, parce qu'il y a à la fois l'hypothèse d'une prémonition, et puis il y a aussi du travail. Et je crois que ce qui invalide partiellement la thèse de la pure coïncidence, à laquelle on serait tenté de se rattacher en tant qu'esprit rationnel, tout ça c'est des hasards, ce qui l'invalide un peu, c'est que tous ces gens, la plupart du temps, travaillent. C'est-à-dire, ils se renseignent, ils imaginent, ils utilisent les capacités d'imagination des créateurs et ils proposent des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses farfelues, qui reposent sur le travail. De ce fait, à partir du moment où on admet qu'il y a aussi du travail, c'est le cas par exemple de Welbeck qui travaille beaucoup sur l'islamisme, eh bien, on n'est plus complètement dans la coïncidence, on est dans quelque chose d'autre et ces textes méritent d'être étudiés non pas parce qu'ils mettent en scène des hasards mais parce qu'ils sont le résultat de recherche et d'un mélange de recherche et d'imagination.
Ce qu'on peut peut-être vous reprocher malgré tout, enfin j'esquisse cette critique, c'est que vous mettez dans le même sac finalement le travail d'un écrivain qui est précisément de travailler, de sentir, percevoir ce qui se passe, d'anticiper éventuellement l'époque. Bon, on peut penser à Kafka. Effectivement, il y a eu beaucoup d'écrivains ou d'artistes qui ont pressenti la catastrophe à venir avant qu'elle se produise. Les artistes en général, dit-on, sont dans cette catégorie de gens qui permettent de voir le moment où on en est, ce qui va se produire. Et vous mélangez, enfin vous semblez mélanger cette catégorie-là tout à fait considéré comme justement la force de l'artiste de pouvoir dire cela avec, disons, des prévisions un petit peu originales ou un petit peu tirées comme ça par magie d'une sorte de prémonition qui serait venue toute seule se poser sur la tête d'un écrivain.
Je mélange plutôt, j'essaie d'étudier les différentes pistes possibles pour résoudre l'énigme et je laisse l'énigme ouverte comme dans beaucoup de mes livres. Il y a un narrateur qui raconte, qui présente le dossier, qui étudie la thèse de la coïncidence, qui étudie la thèse du travail, qui étudie notre remarquable capacité à surinterpréter les faits, ce qui est indiscutable. On a tendance plutôt à prêter attention aux ressemblances qu'aux différences, qui étudie la loi de Murphy. Et je pose la question de savoir si ça suffit à tout expliquer. Là encore, le cas du Titanic est intéressant, parce que vous avez quand même plusieurs textes qui, de manière assez précise, ont annoncé la catastrophe, puis vous avez toute une série de rêves prémonitoires ou autres. Je suis un écrivain, donc je préfère laisser l'énigme ouverte.
Mais vous croyez au monde parallèle quand même, on le sait, Pierre Bayard.
comme un certain nombre de physiciens très sérieux de la physique contemporaine.
Alors vous dites, donc, vous nuancez l'idée de coïncidence, vous nuancez aussi l'hypothèse ou l'idée de précognition à la Bertrand Méheux. Comment expliquer alors pour vous cette préscience? Est-ce que quelque part tout est déjà écrit, d'après vous?
Je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments liés à la création littéraire. Et en particulier, je renvoie là à la loi de Murphy, à la capacité...
Il faut peut-être le repréciser.
La capacité à imaginer le pire. Vous savez, les ingénieurs, quand ils fabriquent un objet, un véhicule, etc., imaginent les situations les plus invraisemblables, où des personnes utiliseraient l'objet ou le véhicule de façon complètement absurde. Et donc, ils ont cette capacité à imaginer le pire qui est nécessaire et qui est désignée par la loi de Murphy. Je fais l'hypothèse que c'est aussi le cas des écrivains, pour des raisons d'ailleurs simplement d'intérêt narratif. Si vous voulez construire des textes qui soient intéressants, il faut aller dans les recoins les plus terribles de la destinée collective ou de la psyché humaine. Et donc ils ont une sorte de potentialité à imaginer le pire. Et cela peut expliquer un certain nombre de résultats étonnants. Je fais un moment, de façon ludique, un parallèle entre Ben Laden qui imagine l'agression contre les Twin Towers et Tom Clancy qui, lui, imagine un attentat un peu similaire. Et les deux, pour des raisons totalement différentes, se forcent à imaginer ce qui est le pire possible. Alors, si nous nous mettons à réfléchir sur ce qui peut nous guetter de pire, pourquoi ne pas nous adresser aux écrivains qui sont, par leur imagination, si j'ose dire, les spécialistes du pire?
Et vous évoquez, vous citez aussi autour de la loi de Murphy, le roman autrichien de Franz Werfel, écrit au début des années 30, en 33, et qui portait, selon certains, déjà ce qui allait advenir avec la Shoah. Comment expliquer ça? Vous cherchez des ressorts qui sont quand même peut-être entre la psychologie et le culturel aussi. Vous évoquez un pessimisme esthétique qui pourrait expliquer en partie ces prévisions.
Oui, bon, c'est un livre absolument magnifique de Franz Werfel sur le génocide arménien, les 40 jours du Moussadag, écrit au moment où Hitler s'apprête à prendre le pouvoir en Allemagne. Et donc il se penche vers le passé, mais dans le même temps, il indique ce qui va arriver dans les conférences qu'il donne en Allemagne.
De quelle façon?
Il y a des allusions très claires. Les Arméniens sont décrits par moments comme les Juifs. Et il y a des comparaisons qui sont faites. Et dans les conférences qu'il va donner à cette époque, il va très clairement indiquer que ce livre est tourné vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Et d'ailleurs, c'est un des premiers livres que Hitler interdira. Et là aussi, on retrouve cette capacité à imaginer le pire. Face au pire, je crois qu'il a très bien perçu que face à des fanatiques comme les nazis, on aurait le pire et qu'ils iraient jusqu'au bout.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'anticipation pourrait avoir parfois influencé la réalisation de certains événements? Parce que vous le dites, quand il est vous l'écrivez, d'une telle ampleur, l'événement en quelque sorte déborde de sa propre temporalité.
Alors ça, je pense que c'est surtout valable pour les cas que j'ai examinés dans Demain est écrit, le premier volume de la trilogie, où je montrais comment un certain nombre d'écrivains et d'artistes ne décrivent pas seulement des faits qui leur sont arrivés, mais des faits qui vont leur arriver. Rencontres sentimentales, maladies, morts, accidents. Et dans ce cas-là précis de la vie privée, il y a le problème que vous évoquez, qui est celui de la prophétie autoréalisatrice. Si je décris un personnage qui rencontre une petite rousse ou un grand blond et qu'un an après je tombe amoureux d'une petite rousse ou d'un grand blond, on va me faire remarquer que c'est pas forcément le fait du hasard et que peut-être je m'intéressais à ce type de personne et que j'ai été influencé inconsciemment, etc. C'est le phénomène de la prophétie autoréalisatrice. On fait une prédiction, mais on participe à la coïncidence de l'événement avec la prédiction. Ça n'est pas le cas dans ce volume, et c'est en ça qu'il y a une différence épistémologique. C'est que ce sont des catastrophes collectives et que les auteurs n'avaient aucun moyen d'influencer ces catastrophes, de les provoquer ou de les empêcher. On est donc dans un autre système où l'auteur ne peut pas influencer par ses fantasmes ou par son inconscient.
Vous ne pouvez pas échapper à la question, Pierre Bayard, de savoir ce que la littérature, aujourd'hui, nous annonce pour demain, selon vous? Est-ce que là, vous raisonnez a posteriori maintenant? Est-ce que vous raisonnez un peu a priori?
Oui, bien sûr, puisque j'indique dans mon livre un certain nombre de catastrophes qui vont se produire, puisqu'il y a une théorie à laquelle je tiens beaucoup, qui est celle des anticipations dormantes, parce qu'on peut me dire à propos d'un certain livre, vous voyez, il y a telle ou telle catastrophe, et elle ne s'est pas produite.
Alors, on est
mais qu'est-ce qui vous dit
qu'elle
ne va pas se produire? Et ceci est en particulier valable pour des œuvres qui ont déjà montré qu'elles étaient justes. Je pense à des œuvres de Wells, à l'œuvre du cinéaste japonais Kurosawa, et je prédis dans le livre, à partir des textes, un certain nombre de catastrophe.
Allez-y, donnez-nous un avant-goût.
Par exemple, l'éruption du mont Fuji, je vous conseille d'être très prudent si vous allez dans la région. Une attaque au virus Ebola qui a été préédite par Tom Clancy, etc. Donc ce n'est pas seulement un livre scientifique sur le présent, c'est aussi un livre qui indique un certain nombre de dangers futurs contre lesquels les écrivains et les artistes nous ont mis en garde.
Parce que vous nous invitez effectivement à prendre au sérieux ces prédictions littéraires, et notamment vous invitez les hommes politiques, nos responsables, à peut-être plonger un peu plus sérieusement leur nez dans ces ouvrages. Mais c'est vrai qu'il y a des centaines de prédictions qui ne se sont pas encore réalisées, des prédictions dormantes, comme vous les appelez. Alors, comment savoir lesquelles, quelles prédictions prendre au sérieux?
Je constate que dans la campagne actuelle, que ce soit les primaires de gauche ou de droite, personne n'a prend des mesures pour examiner les livres et ce qui y est annoncé. On pourrait tout à fait imaginer un travail scientifique pour étudier tous les romans qui sortent lors d'une rentrée et pour essayer de voir quelles sont les catastrophes possibles. Plus sérieusement, j'aime bien construire des livres qui sont à mi-chemin entre humour et sérieux. Et j'essaie de trouver un ton là qui laisse tout de même le lecteur perplexe. C'est vrai qu'a priori tout cela est explicable, mais quand même, parce qu'après tout, le Titanic de Morgan Robertson, il y a tellement de coïncidences, y compris dans les noms. Tout ça est quand même très singulier. Donc j'aime bien, comme beaucoup d'écrivains, laisser l'énigme ouverte plutôt que de trancher de manière systématique.
Vous laissez l'irrationnel frapper à la porte finalement, mais vous n'ouvrez pas tellement la porte.
Y compris, vous évoquiez les univers parallèles pour des théories qui paraissent saugrenues. Je me réfère souvent à la théorie des univers parallèles. Elle est quand même considérée comme possible par les scientifiques, et vous remarquerez qu'elle a beaucoup moins d'effet dans notre lecture des événements ou du psychisme que par exemple la psychanalyse. Donc la psychanalyse est un très bon outil heuristique. Personne n'a jamais pensé une seconde qu'en ouvrant un crâne humain on allait trouver un moi, un ça ou un surmoi. Ça nous permet de penser. La théorie des univers parallèles est beaucoup plus solide et elle permet de rendre compte des faits que je décris dans ce livre. Elle sera peut-être un jour considérée comme parfaitement rationnelle.
Sans aller jusqu'à demander donc que les gouvernements, revenant sur l'arrêté platonicien qui mettait les poète au banc de la cité dirige les pays en s'appuyant sur la littérature, écrivez-vous, Pierre Bayard. On peut s'étonner que celle-ci soit tenue à l'écart des grandes décisions et qu'il n'existe aucune forme de relais permettant aux politiques d'être informés des anticipations littéraires et de s'en inspirer au moment de prendre les mesures qui nous engagent. Alors, on entend bien avec vous ce que les responsables politiques gagneraient à s'en inspirer, mais comment faire pratiquement, à part se choisir un ministre comme Malraux peut-être, c'est-à-dire un ministre écrivain ou un écrivain ministre,
comme Pierre Bayard,
associer éventuellement, associer les écrivains à la conduite des affaires publiques, ça serait le remède, voire la solution.
Je suggère déjà la mise en place que je propose dans la conclusion d'une cartographie des œuvres des auteurs. Certains auteurs régulièrement produisent des anticipations qui se réalisent. Certaines œuvres semblent avoir Houellebecq, par exemple. Hein. Et lui-même, d'ailleurs, considère qu'il a une certaine capacité de...
Donc, soumission, vous croyez aussi que c'est prémonitoire ?
Alors, c'est toujours une éventualité, oui. Hein. Je suggère l'établissement d'une cartographie de ces œuvres et de ces auteurs, d'une réflexion sur le type d'événement, et aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense que la littérature a une capacité de penser l'impensable, c'est-à-dire d'imaginer des formes d'événements auxquelles nous ne pensons pas. Ne serait-ce pour les raisons qu'on indiquait, cette capacité des écrivains à plonger dans le pire, comme les terroristes ou comme les criminels.
Merci beaucoup, Pierre Bayard. Le Titanic fera naufrage. Votre essai vient de paraître aux éditions de Minuit. Merci à vous. On va faire un retour pendant les quelques minutes que nous avons maintenant sur le prix Nobel de littérature qui a donc été attribué à la surprise générale, en tout cas dans ce studio, au chanteur américain Bob Dylan, 75 ans, qui s'est donc vu décerner ce prix aujourd'hui, ce midi, par l'Académie suédoise. Dans un court communiqué, l'Académie dit avoir voulu récompenser chez le chanteur ces nouvelles expressions poétiques qu'il a su créer dans la grande tradition de la chanson américaine. On commence par écouter Bob Dylan et on en parle ensuite.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Man, how many seas must the white dove sing?
Bob Dylan, nouveau Nobel de littérature, avec toi en ligne pour en parler. Mishka Assayas, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Auteur, quant à vous, du nouveau dictionnaire du rock, paru chez Robert Laffont, producteur également de l'émission Very Good Trip, chez nos confrères, consoeurs de France Inter. Une surprise pour vous, ce prix Nobel pour Bob Dylan. Il était quand même dans les tuyaux, son nom avait déjà circulé. Non, mais moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que l'Académie a voulu récompenser aujourd'hui?
Pardon?
Qu'est-ce que l'Académie a vu en lui et qu'a-t-elle voulu récompenser pour vous aujourd'hui?
Certainement ses qualités poétiques. Enfin, vous savez, c'est un inventeur. C'est quelqu'un qui a été le qui s'est saisi d'une forme populaire, la chanson traditionnelle, c'est-à-dire chanson aussi bien les airs folkloriques, les airs de blues, country, gospel, et il les a modelés pour les mettre au service d'un contenu qui était totalement moderne, nouveau. Enfin, personne n'avait jamais fait ça dans la musique populaire avant lui. Et si vous voulez, s'il y a eu la possibilité pour les artistes de rock d'avoir une expression singulière, individuelle, comme un peintre, un écrivain, un photographe, tout ce que vous voudrez, c'est grâce à lui. Enfin, c'est le premier. C'est-à-dire qu'au début, il a... Enfin, si vous me demandez ce que l'Académie a couronné en lui, ça c'est difficile pour moi de répondre, mais enfin moi ce que je vois en lui, c'est en tout cas l'inventeur d'une forme nouvelle. C'est surtout ça.
Un poète aussi?
Ah ben, ça vient de là.
Il a publié aussi, en dehors de ses chansons bien sûr, un album de chroniques. C'est quelqu'un qui a toujours la plume à la main.
Alors oui, mais vous savez, c'est un cas absolument unique parce que il a intitulé ce livre Chronique volume 1, il n'y a jamais eu de volume 2, c'est paru il y a une dizaine d'années, et c'est un des meilleurs livres jamais écrits par un musicien populaire.
En quoi?
Parce que c'est un visionnaire. Vous savez, par exemple, il décrit sa jeunesse dans les rues enneigées de New York en plein hiver, et il raconte que à un moment, il passe devant une échoppe et il voit un cadavre, quelqu'un qui a été liquidé par la mafia, et il se met à décrire cette scène comme si on est enfin dans Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui prend le spectacle le plus banal de la réalité, enfin pas quotidienne, parce que bon voilà, on n'associe pas des gens tous les jours comme ça, enfin il y a encore, mais il le transcende par une vision. Tiens, voilà, on a entendu Blowing in the Wind, ce sont des paroles qui sont assez simples, enfin voilà, la réponse est dans le vent.
Vous auriez préféré qu'on passe Like a Rolling Stone?
Ah bah Like a Rolling Stone, oui, c'est une chanson évidemment qui a marqué toute une génération, qui s'adresse à vraiment à une femme qui se donnait de grands airs et qui aujourd'hui est à la rue. C'est quelque chose qui, enfin bon, là c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui a aussi, si vous voulez, trahi entre guillemets le rôle qui était le sien de porte-parole du mouvement contestataire de la jeunesse américaine contre la ségrégation, toutes ces revendications politiques, pour revendiquer justement une autonomie, une singularité d'artiste presque égoïste. Et on lui a à ce moment-là reproché d'être vendu au système, comme on disait, d'être devenu une sorte de rockstar vaniteuse. Et Like a Rolling Stone a été un peu l'emblème de cette espèce de tournant.
Antoine Mercier.
La secrétaire générale de l'Académie, Madame Sarah Danius, dit « Bob Dylan écrit une poésie pour l'oreille ». Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire toute poésie est faite pour l'oreille, c'est parce que c'est la musique qui vient compléter la poésie. Quelle est l'articulation entre les textes et la musique?
Pour ceux qui ont écouté Dylan quand ils étaient enfants, adolescents, surtout dans les pays non anglophones, on le comprenait pas. Et même, d'ailleurs, les Américains disent, ils parlent du nez, on comprend rien à ce qu'ils racontent, c'est pas un chanteur, etc. Mais il y avait une sorte de, si vous voulez, d'incarnation de la poésie. C'est-à-dire que c'est, le verbe se faisait chair. C'est-à-dire qu'il était là, vous le mettiez sur votre tourne-disque, vous l'écoutiez à la radio, c'était d'abord une voix qui vous prenait au collet, une voix comme on n'en avait jamais entendu, une voix nasillarde avec une façon de rythmer, de scander qui ressemblait qu'à lui, et une espèce d'insolence. Si vous voulez, c'est pas ça, cette poésie, en effet, qui pouvait être lue d'une voix blanche ou emphatique, je ne sais pas, enfin, il y avait cette greffe,
Mais il n'est pas mort, hein, il a juste le prix Nobel. Hein.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on parle comme si les gens qui prendraient l'antenne en ce moment pourraient croire.
Un grand merci, Mishka Assayas. On peut donc relire tous les albums de Bob Dylan à compter de maintenant et aussi réécouter son album de chronique, tome 1, paru en 2005. Bob Dylan avait également publié Tarantula, un recueil de poésie expérimentale. Et puis vous allez voir qu'à France Culture, dans la veine de Pierre Bayard, nous aussi, on peut faire, ou il nous arrive parfois de faire de l'anticipation. France Culture a en effet diffusé la vie de Bob Dylan, comment Robert Zimmerman inventa Dylan, raconté par François Bon. C'était en septembre, fin septembre dernier, juste le mois dernier. 15 épisodes que vous allez pouvoir dès maintenant retrouver sur franceculture.fr. Merci Mishka Assayas.
La Grande Table, le rendez-vous du médiateur.
Le rendez-vous du médiateur, comme un jeudi sur deux, écourté aujourd'hui pour cause de Nobel de littérature qui vient donc d'être attribué à Bob Dylan. Avec Bruno Denès, bonjour à vous.
Bonjour Olivier.
Toutes nos excuses aujourd'hui avec Omar Waman, grand reporter à Radio France de retour de Libye, dont le reportage diffusé sur France Culture dans le choix de la rédaction a suscité beaucoup de réactions et beaucoup de questions.
Oui, bonjour Omar Waman.
Oui, bonjour.
Alors, reportage qui a beaucoup intéressé en effet les auditeurs, que des messages de sympathie, de soutien aussi face au danger. Et de nombreux auditeurs ont envie de savoir comment vous êtes rendu justement en Libye, où il y a des dizaines de factions rivales, dont les fameux djihadistes de Daesh.
Oui, dans cette ville de Sirte, hein, qui était la capitale de Daesh en Libye. Alors, pour se rendre dans cette ville, il faut passer par Tripoli, hein, évidemment, la capitale, puis parcourir en voiture environ 450 km en direction de l'est de la Libye. Et à mi-chemin se trouve Misrata, qui est la ville qui fournit le plus grand nombre de combattants dans cette guerre contre Daesh. Misrata, qui est également le point de passage obligatoire et surtout la ville où séjournent les journalistes, car il est interdit pour des raisons de sécurité de dormir à Sirte. Faut savoir que la route qui mène à la ville natale de Kadhafi, d'environ 250 km, est fermée durant la nuit car elle est régulièrement attaquée. Elle traverse plusieurs localités composées de cellules dormantes de Daesh qui régulièrement posent des mines, mènent des attaques à la voiture piégée. C'est donc une route extrêmement dangereuse.
Alors, il y a pas mal d'auditeurs aussi qui souhaiteraient savoir comment on peut travailler sous le feu des snipers. C'est la situation que vous avez rencontrée à Sirte. Vous étiez sur ligne de front.
Oui, alors il faut d'abord être équipé, hein. Il faut avoir un casque, un gilet pare-balles. C'est indispensable. Ensuite, il faut être extrêmement vigilant, s'informer de l'endroit précis, exact, où se trouvent les snipers de Daesh et se positionner en quelque sorte en conséquence, ne jamais évoluer en terrain à découvert, toujours se placer derrière un immeuble, un véhicule ou derrière le mur d'une maison. Bref, il faut ne jamais parcourir une zone à découvert. Il arrive que le sniper de Daesh, et d'ailleurs ces snipers sont particuliers, hein, ils veulent mourir, ce sont des gens qui veulent mourir et faire un maximum de victimes, donc il bouge lui aussi, ce sniper, régulièrement sur la ligne de front. Il est aux avant-gardes, derrière lui plusieurs autres snipers attendent leur tour, et donc il faut suivre les consignes des combattants libyens, enfin pour ce qui est de la Libye. Il faut souvent courir, on court beaucoup, hein, sur la ligne de front, car il faut pouvoir passer très rapidement d'un endroit à un autre.
Alors rapidement, Omar aussi, vous avez été malheureusement témoin d'un événement dramatique. Un de vos confrères néerlandais était tué juste devant vous.
Oui, il s'agit de Jeroen Oerlemans, journaliste aguerri, néerlandais, 46 ans, père de 3 enfants. Il est effectivement mort à Sirte le 2 octobre dernier. Il a été abattu, exécuté sous mes yeux. Il était à une dizaine de mètres. Il avait décidé d'avancer avec des combattants libyens. C'est en revenant qu'il a été touché, en traversant une rue à découvert. Son gilet pare-balles ne l'a pas protégé car la balle s'est logé sur le flanc au point faible du gilet pare-balles. Sur le côté, il est mort quasiment sur le coup.
Merci Omar Waman, grand reporter de Radio France et puis également envoyé spécial permanent en Beyrouth. Et puis je rappelle aussi que vous avez gagné un des prix Bayeux dimanche dernier, prix Bayeux des correspondants de presse. Bravo.
Félicitations. Merci Bruno Danès, médiateur des antennes de Radio France. On peut vous écrire, hein, sur votre site mediateur.radiofrance.fr. Un grand merci à tous les deux et à toute l'équipe de la Grande Table qui se tweet, ce Facebook et que vous pouvez retrouver à l'écoute sur le site de franceculture.fr.